Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute une vie, le portrait sonore d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et peut-être surtout les suivantes. Aujourd'hui, Panonica de Koenigswarter, une émission proposée par Anaïs Quien avec Sylvia Favre. L'avantage de naître bourgeoise, c'est que parfois ça vous laisse le choix. Et celui de Panonica de Koenigswarter, c'est de sortir pour s'engouffrer dans le jazz et dans ses clubs. Après un mariage tout ce qu'il y a de plus conventionnel, 6 enfants et une guerre engagée, elle devient un fervent soutien et la mécène des musiciens new-yorkais africains-américains. Rendez-vous chez Nika, avec Charlie Parker et Thelonious Monk, c'est tout de suite dans Toute une vie.
Crying the blues and all that begging. And you said he laid the bread on him so he could beat the boat. Right?
And
threw in
the
soup
for
that. It changed the world.
Yeah, but that was over here,
no? I mean, I'm your president. I tell people who you are. She's a billionaire.
Panonica de Koenigswarter, La bonne étoile du jazz. Un documentaire de Lenora Krief, réalisé par Rafik Zenim.
Elle aimait la musique, elle aimait ses musiciens.
C'est vraiment l'engagement.
L'engagement, c'est exactement la parole qui la caractérise. Et qui est ce qui est, pour moi, je pense, qui est fascinant. Mais parce qu'il n'y a aussi aucun prosélytisme de sa part. C'était pas quelqu'un qui cherchait à convaincre qui que ce soit. Elle estimait que de faire ce qu'elle faisait était déjà une déclaration en soi. Et que c'était une telle provocation, en fait, à l'époque, que ça, voilà, ça, en soi, ça devait déjà... Ça allait faire forcément du bruit.
Dans une région d'Europe centrale appelée Pannonie, Charles Rothschild découvre un drôle de papillon de nuit qu'il baptise Panonica. Ce nom, c'est aussi celui qu'il décide de donner à la dernière née de ses filles, comme s'il avait pressenti son désir de liberté. L'histoire de Panonica ressemble à un conte. Tout commence dans le château de Trine Park, dans le nord-ouest de Londres, où elle passe une partie de son enfance. Elle rencontre ensuite un baron, fait le tour du monde, puis aura beaucoup d'enfants. Sauf que voilà, l'histoire ne s'arrête pas là. Son destin swing beaucoup plus. La belle Panonica, qui sillonne les routes des États-Unis dans sa Bentley, est moderne, punk, fascinante. Elle a été à l'encontre de tous les préjugés de son époque, sur les femmes, les gens de couleur, le milieu du jazz. En lisant ses aventures, on se dit que c'est presque trop, trop pour être vrai. Et pourtant, cette bienfaitrice a bien tout envoyé valser pour donner à la musique qu'elle aime les moyens d'exister. Sur les clichés à côté du grand Thelonious Monk, son visage est difficile à cerner. Comme si son élégance aristocratique ne laissait paraître aucune émotion. Mais c'est sûrement une des bonnes manières que l'on apprend quand on grandit avec une armée de domestiques qui veillent à ce que tout soit parfait.
En fait, Panonica est de la branche anglaise des Rothschild. Je crois qu'on l'appelle la branche de Londres, ou dite de Londres, quelque chose comme
Stéphane
ça.
Stéphane Tamayon, auteur d'une bande dessinée sur Panonica.
C'est la fille de Charles Rothschild, qui était le gérant, l'associé principal de la banque familiale à Londres, hein, qui était une banque très importante. Et elle a grandi en Angleterre, notamment dans le manoir de Trine Park, mais pas uniquement. Et donc, elle a grandi dans ses propriétés, notamment Trine Park, où il y avait différentes espèces animales. Et, elle avait donc en fait un environnement qui était quand même assez privilégié, mais elle avait aussi elle était en mouvement assez souvent, puisqu'elle allait de propriété en propriété. Elle-même le dit, hein, j'étais ballotté d'un endroit à l'autre avec une armada de domestiques pour s'occuper de moi, mais elle était finalement assez coupée finalement de sa famille proche d'une certaine manière, à part ses frères et sœurs avec lesquels elle a grandi. Mais elle avait une enfance assez corsetée, on peut dire, d'une certaine manière.
Ce qui, en tout cas, moi, m'a marqué dans cette histoire, en tout cas dans l'enfance et l'éducation de Panonica, c'est l'absence d'intimité de ces éducations aristocratiques où tout était pris en main par une légion de domestiques et où on voyait ses parents très peu de temps, avec une organisation du temps extrêmement rigoureuse et l'anonymat, en fait, de cette enfance-là.
Elsa Rook, metteuse en scène du spectacle Panonica.
Son isolement aussi, le fait qu'elle a grandi donc dans une sublime maison, mais où, en fait, on ne sait pas qui sont les gens. Il y a très peu d'intimité, il y a très peu de relations intimes, avec vraisemblablement une mère qui était... Assez incroyable. Hein. Elle parlait, je crois qu'elle lisait la presse dans cinq langues tous les matins. Elle fumait, ce qui à l'époque était assez rare. Donc la Rogica von Fersenstein, c'était un sacré morceau.
La mère de
Panonica. Et elle a vraisemblablement un caractère trempé dans l'acier. Elle fait, du point de vue de sa famille, un excellent mariage. Lui, il va pas faire un si mauvais mariage que ça, entre guillemets, parce que d'abord, il est apparemment très amoureux d'elle, et ensuite, parce qu'en fait, c'est elle qui va mener la maison à la grande satisfaction de la belle famille. Son mari, mais de toute façon, c'était pas lui de tenir la maison. Lui, malheureusement, il était obligé de prendre les affaires financières de la famille, en fait, de diriger la banque, en fait. Il n'avait aucune espèce d'ambition de devenir le directeur de cette banque. Et aucune envie de l'être, en fait. Donc, Panonica, elle est entre une mère qui est une chef de guerre, qu'elle voit très peu de temps, et un père qui est très malheureux de faire ce qu'il fait, parce que lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est les papillons, et qu'elle voit aussi très 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 peu. Et quand elle le voit, en revanche, ce qui est bien, c'est qu'ils écoutent de la musique, beaucoup de musique. En fait, le jazz et Panonica ont le même âge. Ils ont grandi ensemble. Là, on parle vraiment des années 15-25, puisque son père, en plus, lui, décède quand elle a 8 ans, je crois. C'est vraiment la petite enfance et c'est très tôt, effectivement, par rapport à l'essor du jazz en Angleterre. Mais ça va semer des graines, pas simplement chez Panonica, mais chez son frère Victor, qui lui va prendre des cours de piano, des leçons de piano de jazz, notamment avec Teddy Wilson, merveilleux pianiste de jazz, et qui va aussi lui écumer tous les concerts de jazz possibles à partir effectivement de la fin des années 20, début des années 30, et emmener cette petite sœur, la petite dernière, une espèce de pet, de petit animal merveilleux qui est ravissante, qui est vivante comme tout. Et donc c'est elle qui l'emmène en fait au concert, alors qu'elle est encore toute jeune.
Il y a cette chose étrange étrange pour nous aujourd'hui, hein, à cette époque-là et dans ce milieu-là notamment, c'est que on attendait trop des hommes et pas assez des femmes. C'est-à-dire de la même façon que Charles, dans la position où il était, n'avait absolument pas le choix de prendre la direction de la firme familiale. En revanche, les femmes, vraiment, c'était pas la peine d'avoir quelque ambition que ce soit. On va faire une instruction pour faire des personnes qui sont capables de faire bien la conversation. En général, les envoyer dans des finishing schools en Suisse ou en France, où on apprend donc aux jeunes filles toutes les bonnes manières et l'art de recevoir en tant que maîtresse de maison. Et après, on vise un bon mariage. Et Panonica a été une parfaite élève. Elle a fait un mariage parfait. Elle a coché toutes les cases sur les obligations familiales. Elle a tout fait comme il fallait. Elle est quand même incroyablement modelée dans son enfance, son adolescence et sa jeunesse à satisfaire au maximum les attentes, notamment de maman, puisque son père n'est plus là. Même si elle fait beaucoup de conneries, ça on le sait aussi, apparemment elle était quand même très frondeuse et très... Mais un peu comme une petite dernière de famille qui a... Voilà, les portes se sont ouvertes devant elle, tout le monde a été très très sage, et puis il y a une petite dernière qui arrive et qui fait « Oh, est-ce qu'on est vraiment obligé d'être très sage ?»
Panonica prenait peut-être sans doute trop de liberté, était trop... Notamment quand elle a commencé à découvrir de manière plus importante et à fréquenter de plus en plus le milieu du jazz anglais, sa mère s'est dit qu'il était grand temps qu'elle aille dans une finishing school à Paris, ce qui l'a d'une certaine manière émancipée peut-être encore un peu plus, puisqu'elle a commencé à fréquenter du coup les clubs parisiens, elle a découvert donc le jazz également qui se développait en France. Mais elle n'était pas la seule rebelle de la famille finalement. Les filles de la famille ont quand même suivi leur voie d'une manière générale, puisque sa sœur Elisabeth, qui était surnommée Liberty, elle s'est engagée dans une carrière d'artiste, de peintre notamment. Et sa sœur Myriam a suivi des études de biologie. Elle est devenue une des plus grandes biologistes anglaise. Les filles de la famille ont quand même suivi un parcours qui n'était vraiment pas celui auquel elles étaient destinées. Donc je pense que ce n'était pas que Panonica. Il y avait quand même une sorte de graine qui était plantée là et qui a permis quand même une certaine émancipation.
Mais tout ça est quand même cadré dans le fait de vouloir, d'essayer de faire quand même tout bien. Il y a quelque chose de ça qui va rester tout le long de sa vie, malgré le moment où elle fait... Oh, the hell with it. Et qu'elle envoie tout balader et qu'elle fait, en fait, c'est, il faut que je sauve ma peau dans cette histoire. Mais elle fait tout bien, elle épouse un baron juif, très fringant, très comme il faut. Alors, Jules de Königswarter, donc, qui va être ce mari qu'elle épouse après une cour martiale, il lui fait apparemment une cour à laquelle elle, pas vraiment trop résister, elle n'est pas sûre que c'est tout de suite ce qu'elle veut, mais voilà, ça va trop vite, en fait ça va trop vite, alors elle fait bon, allez d'accord, voilà. Va effectivement s'installer avec elle, puisqu'il est français, donc il s'installe en France avec elle, elle parle déjà remarquablement bien français, évidemment, parce que ça fait partie de l'instruction et de son éducation, et en fait, au château d'Abondan, elle devient Rogica. En fait, elle prend la place pour laquelle elle était destinée, c'est-à-dire elle devient une maîtresse de maison qui confie ses deux petits bébés qu'elle a très vite à des domestiques et puis qui voit les menus avec les cuisinières, qui prépare les réceptions pour son mari, elle fait tout comme il faut, voilà.
Panonica fait partie d'une des plus grandes familles juives et fortunées et se sent en danger quand l'armée allemande commence à envahir l'Europe. En septembre 1939, Jules de Königswarter est mobilisé. Elle va dans un premier temps ouvrir ses portes aux réfugiés allemands avant de choisir de rejoindre son mari en Afrique. Nika s'engage dans les forces françaises libres. Elle confie ses enfants à des amis américains, fait ses valises et débarque à Brazzaville. Sur place, elle occupe différents postes. D'abord comme infirmière, puis ensuite au décryptage de messages. Elle va travailler aussi à la propagande par le biais de la radio. Et même si ce n'est pas formellement attesté, elle aurait piloté un bombardier. C'est peut-être le moment le plus heureux de son mariage. Mais après 2 années de résistance, où Panonica a survécu à la malaria et traversé les continents, le retour à la vie domestique manque de sens pour elle. Panonica s'ennuie et ne trouve plus sa place.
Après la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jules va être nommé donc diplomate. Panonica va être reléguée à son rôle de femme d'une certaine manière. Elle redevient ce qu'elle était avant la guerre, au château d'Abondan. Elle est celle qui accompagne son mari, celle qui doit être présente aux réceptions. Lui a de plus en plus de mal à supporter ses envies de liberté, ses lubies, son amour du jazz même. Qu'il a du mal à comprendre, c'est pas forcément quelque chose qui lui l'intéresse ou le passionne. Quand voilà, quand il la déçoit, il n'hésite pas à la punir en brisant les vinyles qu'elle a pu acheter. Et donc progressivement, leur relation effectivement se distende et elle va de plus en plus aller séjourner. Alors au départ des séjours courts, puis de plus en plus longs aux États-Unis, puisque elle veut être à New York, elle veut être à Manhattan, là où il y a les clubs de jazz, là où elle peut aller écouter les musiciens qu'elle aime. Donc elle va s'éloigner comme ça du foyer, elle va partir jusqu'au moment où elle va décider en fait de ne plus revenir. C'est-à-dire qu'elle part, elle va écrire à sa sœur Myriam pour lui dire « je ne reviens plus ».
It was in the late 1940s. I was on my way back to Mexico, where I was living with my husband and family at that time. On my way to the airport, I stopped off to see my friend Teddy Wilson. He said, have you heard this record, Round Midnight? Well, I never even heard of Thelonious. He said, you can't leave without hearing it, and he galloped off somewhere to get the record. My ears. I'd never heard anything remotely like it. I made him play it 20 times in a row, missed my plane, and never went back to Mexico.
La musique de Thelonious, c'est un peu comme un météorite d'un système planétaire très éloigné du nôtre qui tombe dans le jardin. Et c'est d'une beauté très étrange. On peut tourner autour dans tous les sens. On n'a jamais fini de comprendre pourquoi on aime ça, pourquoi c'est comme ça. C'est une sorte de gros point d'interrogation dans notre univers d'habitude et de certitude.
Laurent De Wilde, pianiste et écrivain.
C'est marrant parce que c'est un morceau, la mélodie de Round Midnight est une mélodie extrêmement modale, c'est-à-dire avec des notes qui tiennent vraiment dans une gamme très simple. Aujourd'hui, on a du mal à s'en rendre compte, mais à l'époque, les accords qui sous-tendaient cette mélodie étaient mais totalement tarabiscotés. Il n'y avait absolument rien qui était normal. Déjà, le bebop, c'était nouveau, mais lui, par rapport au bebop, c'est-à-dire qu'il reprenait des petits trucs bebop, mais il avait ses trucs à lui que personne n'a jamais imité et qu'il ne tenait de personne, qui en font une progression harmonique extrêmement difficile à jouer, à faire sonner. Donc, Round Midnight, je serais en difficulté d'expliquer pourquoi c'est devenu son tube. Je ne sais pas si c'est dû au titre du morceau aussi. Il y a peut-être quelque chose là-dedans, Round About Midnight. C'est une heure assez symbolique, quoi. C'est un peu l'heure de la nuit, quoi. C'est une sorte d'équilibre parfait entre un côté très attractif mélodique, qui n'est pas aussi rappeux que certaines autres compositions de lui, qui n'est pas simplet comme d'autres compositions de lui, C'est une sorte d'équilibre de tout ce qu'il y a de meilleur chez Thelonious, quoi, et de plus accessible, je dirais.
But you see, I didn't meet Thelonious until 2 years after that, in 1954. I heard that he was playing in Paris, So I got on a plane and I got there just in time to hear his first overseas concert. And I went backstage afterwards, and Mary Lou Williams introduced me to him. But we hung out for the rest of the time he was there. We had a ball for about a week.
Quand elle vient à Paris en 54, elle a passé une année complète à essayer de le rencontrer, le Monk, à New York. Mais lui, comme il n'a pas sa carte de cabaret, il n'a pas le droit de jouer en ville, donc il est invisible et tout lui demande. C'est un petit peu le centre vide de toute la galaxie qu'elle est en train d'explorer, quoi. Et donc, tout le monde lui dit, ah ben Monk, ah ben non, on le voit pas. Ah ben non, il joue pas. Ah ben non, vous êtes sûr, je pourrais pas aller voir. Ah ben non, ben non. Et boum, il joue en France. En 54, donc elle prend l'avion et elle va le voir jouer. Et c'était effectivement, de sa part, elle l'a dit plus tard, que c'était une espèce de... Elle est tombée en amour de sa musique, comme elle est tombée en amour de la musique d'Ellington. Et comme plus jeune, elle était tombée en amour du jazz, en écoutant des disques, parce que déjà, on en écoutait à l'époque de sa jeunesse. Et c'est ça qui nous relie tous, les fans de jazz, c'est qu'on est tous tombés amoureux de cette musique pour une raison qu'on comprend pas, quoi. À l'époque, c'était quelque chose de très lointain, de très sauvage, de très indomptable, de très... Le jazz avait quand même une image extrêmement sulfureuse. Et pour une fille de bonne famille comme Panonica, c'était certainement un interdit redoutable de fréquenter ces musiciens.
Et elle dit d'ailleurs, au départ, cette musique, elle était tellement belle, même si je ne connaissais pas les musiciens, les musiciens qui jouaient cette musique devaient forcément être beaux, au sens d'être des belles personnes, en fait. Et pour revenir à son enfance, à l'absence d'intimité, à l'absence aussi de liberté dans le temps, parce que j'évoquais tout à l'heure le fait qu'elle avait eu une enfance très, très organisée, très minutée, etc., etc. Son mari était comme ça. Un temps qui est extrêmement cadré, qui est très corseté, ça donne aussi un sentiment qu'il n'y a pas de liberté, en fait. Qu'il n'y a pas de liberté possible, qu'il n'y a pas d'improvisation. Donc le jazz est venu aussi, il me semble, toucher cette zone-là parce que c'est la musique où c'est au moment présent. On ne sait pas ce qui va se passer après. Et c'est cette merveille du génie d'improvisation, en fait. Donc je crois aussi que la musique a été un espace de liberté pour elle et que les musiciens ont été... une famille. Et donc elle va prendre une suite effectivement au Stanhope à New York, où elle va faire des choses révolutionnaires, puisque c'est un hôtel qui est interdit à la population afro-américaine et qu'elle, elle va y entrer très tranquillement avec tous ses amis. Exiger des garçons d'étage qu'ils prennent les commandes de toutes ces personnes qui ne sont pas censées avoir le droit d'être dans cet hôtel. Et en plus, toutes ces personnes vont faire de la musique dans la suite toutes les nuits.
Ben, on vit une époque absolument extraordinaire pour le jazz. Et donc, il y a une sorte d'exubérance créative qui c'est comme un essaim d'abeilles qui a besoin de se poser sur quelque chose, quoi. C'est-à-dire, ils sont en train de ils sont vraiment très 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 vite et fort dans leur recherche musicale et ils sont prêts à se poser absolument n'importe où. Nika, en fait, il suffit de lui dire: vous pouvez passer si vous voulez, et boum, il y en a 30. C'est pas genre, ah, Jean Canis, j'ai un petit concert, etc. Ah, bon, comment on fait, bon, maintenant. Non, les gars, ils sont prêts à squatter n'importe quel endroit. Alors, surtout chez Nika, qui est quand même drôlement sympa. Et en plus, quand on a soif, on fait venir le room service. Donc, franchement, y a pas meilleur endroit. Je crois que Panonica était amoureuse du jazz et extrêmement dissatisfaite du fait que c'était une musique sous-estimée, sous-valorisée. C'est une femme qui a été élevée dans des standards d'une extrême exigence. Elle voyait cette exigence dans cette musique, elle voyait cette noblesse dans cette musique, mais trouvait absolument scandaleux, tout à fait incompréhensible que, eh ben, en tant que telle, cette musique ne soit pas aussi honorée que Chopin, Brahms ou Haydn. Je pense que pour elle, européenne, c'était un sentiment d'injustice qui était beaucoup plus difficile à ressentir aux États-Unis, qui sont baignés dans cette espèce de racisme quotidien, qui fait que bon bah c'est comme ça quoi, c'est de la musique de noir, donc c'est du folklore de noir, c'est un autre truc, c'est pas nous. Enfin, ou alors on leur pique des trucs et on fait des comédies musicales avec. Mais tout ça c'est dans l'inconscient collectif américain, parce qu'il pouvait toujours y avoir une espèce de shérif un peu maniaque de la gâchette dans un état du Sud, et hop c'est fini quoi. Donc pour la baronne, ce sont autant de choses qui sont mais complètement inacceptables, inexcusables, incompréhensibles. Et je pense que elle a rapidement compris que bah on pouvait pas aller contre le courant. Elle avait pas une émission de télé, elle avait pas une émission de radio. Elle avait du fric, donc elle le dépensait pour ses musiciens, pour justement être un petit peu le filet de sauvetage qu'il n'avait pas dans la vraie vie.
Qu'est-ce qu'elle va leur offrir, Elsa Rook?
Je pense d'abord le fait qu'elle adore leur musique, et pour eux c'est la première chose, c'est que d'avoir une fan comme elle qui a ce statut, une femme blanche extrêmement charismatique. Ils disent tous qu'elle était à tomber par terre, qu'elle entrait dans une pièce, tout le monde faisait oh. Voilà, que Ava Gardner pouvait aller se coucher, enfin, donc il y a ce charisme-là, vous imaginez cette espèce de star incroyable qui est à leurs pieds, qui leur dit « vous êtes magnifique ». En pleine période de ségrégation, de toute façon, tout le monde les traite comme les piétine et les humilie, etc. D'avoir une personne comme elle, qui en plus est une baronne britannique, avec cet accent britannique, comme ça, très élégant. Elle est très déglingue en même temps, c'est ça qui est merveilleux chez elle, mais à la fois une grande élégance déglingue, voilà. Elle est allée au Mont-de-Piété récupérer les instruments qui avaient été donc mis au clou, hein, puisque c'est ce qu'ils faisaient. Elle a engagé des avocats pour récupérer des cabaret cards, qui étaient donc ces permis de jouer qu'avaient ces jazzmen et qui leur étaient enlevés à la moindre incartade parce que, je sais pas, parce qu'ils étaient pris en état de peut-être légère ébriété sur la voie publique et plus le droit de travailler pendant 2 ans, formidable. Ce qui était terrible en fait. Au moment où elle arrive à New York, c'est assez étonnant, elle cherche Monk, mais il est nulle part parce qu'en fait, il a plus de cabaret card, par exemple, il peut plus jouer. Et c'est pour ça qu'elle ne le trouve nulle part, elle va écouter tout le monde et elle se dit, mais il est où, c'était le Thelonious Monk, il est où? Mais en fait, il est terré chez lui parce qu'il n'a pas le droit de jouer, parce qu'on lui a retiré cette fameuse carte. Donc elle, par exemple, elle a récupéré parfois ses permis de jouer grâce à des avocats qu'elle engageait. Elle a pris sur elle une possible condamnation. C'est l'incident à la fin des années 50 de Delaware, quand donc Thelonious Monk, maintenant ils se connaissent, voilà, il a pas joué pendant très très longtemps, donc maintenant il accepte tout et n'importe quoi, et là ils ont un concert, il a un concert, donc je crois, si je dis pas de bêtises, à à Delaware, où Panonica va le conduire en voiture avec son saxophoniste Charlie Rouse. Et à un moment, il s'arrête en route. Et il va dans un motel demander à boire. Et évidemment, là, ils sont dans des états qui sont beaucoup plus sévères encore qu'on l'est à New York par rapport à la ségrégation. Et comme Monk est quand même un drôle de Librius, parce que c'est un taiseux, parce qu'il a un drôle de regard, parce qu'il n'a pas l'air totalement là, on va dire. Apparemment, la personne qui lui donne le verre d'eau prend peur, appelle la police, et là, donc la police leur met le grappin dessus, fouille la voiture, trouve de l'herbe, et là, immédiatement, Panonica va dire non, mais c'est d'abord c'est à moi, ensuite c'est juste récréatif et il n'y en a que pour une bouffée. Tout ça va pas très bien se passer, lui il va se faire tabasser. Enfin, voilà, épisode assez dramatique. Et donc 3 ans plus tard, elle va se retrouver effectivement dans un tribunal parce qu'elle a dit que la drogue était à elle. Et elle y est à la place de Thelonious et elle sait que. Elle n'est pas dans une très bonne passe, mais que de toute façon, il vaut mieux que ce soit elle plutôt que Thelonious.
Ce qui est très marrant dans cette histoire, c'est que dans sa biographie, on la voit extrêmement anxieuse, très d'arriver à l'audience, d'encourir certainement une peine de prison, mais en même temps, c'est un regard d'étrangère parce qu'elle ne se rend absolument pas compte du poids qu'elle pèse dans une justice américaine qui est extrêmement sensible à l'argent. C'est-à-dire que si elle avait été américaine, elle aurait dit, de toute façon, j'achèterais le juge, de toute façon, je vais prendre les meilleurs avocats, et puis, franchement, il va rien m'arriver. Alors, je ne sais pas si, quelque part, au fond de sa tête, elle se disait, je suis sûr qu'elle s'est dit, j'ai plus de chances de m'en sortir que Thelonious. Ça, c'est sûr. Je pense qu'elle a vraiment eu peur. Alors que je pense rétrospectivement qu'elle n'avait pas à avoir peur de sa position sociale, mais elle avait peur comme étrangère. Si ça avait été une américaine, elle aurait mis le flic minable et point à la ligne.
Vous dites dans votre ouvrage que Monk est entouré de femmes qui le protègent, et à commencer par sa femme Nelly, à qui il voue un grand amour et une confiance totale.
Alors la relation de Thelonious avec Nelly est une relation de confiance absolue, ça c'est clair. Ils font équipe dans la vie. C'est-à-dire que lui, il joue du piano, elle fait tout le reste. C'est-à-dire élever les enfants, gagner de l'argent, parce que lui, il n'en gagne pas au début de sa carrière, et ça dure très très longtemps. Il joue du piano, quoi. Et il va voir les copains, il boit des coups, il fume de l'herbe, il prend de la dope, mais il a un truc, ça c'est clair. Et Nelly, elle le sait. Et elle fait des repassages, elle fait des travaux de couture, elle fait des ménages. Elle, quand ça commence à marcher, elle boucle les dates, elle le suit partout, elle fait sa valise, elle choisit ses costumes, elle lui tient la main durant toute son existence. Et c'est une main que Thelonious lui abandonne volontiers. Parce qu'en fait, il plane très haut, Thelonious. En permanence, il plane très haut. Donc c'est important qu'il y ait quelqu'un qui tienne la ficelle.
Et Panonica, elle s'est présentée pour Nelly comme une bonne fée et non comme une rivale. Hein. Parce que c'est vrai qu'elle aurait pu avoir peur, Nelly, de Panonica.
Oui, Panonica était une femme blanche bourrée d'argent dans un milieu noir, pauvre et légèrement frustrée de relations interraciales. Donc c'est clair qu'elle est un objet de choix. Elle a eu une histoire avec Art Blakey au tout début, avec un autre saxophoniste dans mon souvenir, mais ça s'est vraiment arrêté là. C'était pas du tout une femme qui cherchait ça dans la vie. Et je pense que Nelly l'a vite compris. Mary Lou Williams était quelqu'un qui était beaucoup plus dans le collimateur de Nelly. Et Nelly, elle, avait plus d'appréhension vis-à-vis d'elle que vis-à-vis de Nika. Elle volait très haut, Nika. elle était un peu en sustentation permanente. Et donc, je pense que Nelly a tout de suite repéré The Two of a Kind, les deux de la même espèce, quoi. Et elle savait que là où ils se rejoignaient, c'était pas un problème pour elle. C'était pas une contradiction.
What can I say? If there are seven wonders in this world, then I think Thelonious was the eighth. He helped you see the music inside the music. And his music itself helped me see possibilities in life and ways of living that I never dreamed of.
Je crois vraiment que ce qui les relie, c'est leur extraordinaire imagination, parce qu'il faut énormément d'imagination pour vivre la relation qu'ils ont vécue, qui est une amitié entre un homme et une femme extrêmement atypique, qui ne ressemble à rien, qui est à la fois comme une relation entre frère et sœur, mais n'est pas une relation entre frère et sœur, qui est à la fois comme une relation entre conjoints, mais n'est pas une relation entre conjoints. Donc il faut de l'imagination pour vivre des relations atypiques. Et quand on est Thelonious Monk, et quand on est Panonica de Königswarter, quand on est à l'extérieur et qu'on les regarde, on se dit mais comment c'est possible, il n'y a rien de commun. Et en fait, il y a énormément de choses en commun entre les deux, en termes de certainement de personnalité, de goût, de l'importance que la musique a eu certainement dans leur éducation à l'un et à l'autre, en tout cas dans leur petite enfance. La musique, parce que Monk a écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique dans son enfance, la musique classique comme du jazz, hein, c'était une culture musicale qui était assez considérable. Et certainement, pour l'un comme pour l'autre, la musique a dû représenter l'oasis absolue dans des enfances pas très gaies, avec en même temps ce paradoxe qu'elle était dans un environnement extrêmement riche, c'est un euphémisme, et lui dans un environnement extrêmement défavorisé, c'est un autre euphémisme. Mais pour les deux, la musique a été certainement une source de vie, une source de, justement, de pour que l'imaginaire s'ouvre. Et donc dans un environnement dans lequel il y avait, chez l'un comme chez l'autre, une figure paternelle très mélancolique, voire dépressive. Sachant que quand je dis des pères mélancoliques et dépressifs, en fait, si je disais un peu dérangé, je serais plus proche de la vérité. Et je crois vraiment, encore une fois, qu'il y a surtout cette extraordinaire imagination de l'un et de l'autre.
C'est une femme complètement excentrique, extrêmement bien née et à l'aise dans sa naissance, et elle transmet ça à Thelonious. Elle lui dit, toi aussi, tu es née coiffée. Toi aussi, tu as une couronne sur la tête. Mais je pense que, d'un point de vue symbolique, c'est ça qui est très important pour Monk. C'est comme si il était invité par le président des États-Unis. C'est quelque chose comme ça, de cet ordre distinctif. Mais en plus, Nika, elle ne descend pas de son piédestal pour lui parler. Non, c'est lui qui est considéré comme sur un piédestal égal. Et je pense que c'est très important pour lui. Monk était quelqu'un qui avait une réputation d'être très énigmatique. Il parlait toujours à demi-mot, il grommelait, on comprenait pas très bien ce qu'il racontait. C'était quelqu'un qui n'était pas facile à comprendre en général. Et donc, les musiciens de jazz qui étaient hip, eux, ils comprenaient à demi-mot. Ils entendaient juste dans le chantonnement ce qu'il y avait à comprendre, sans même entendre les mots. Et Nika était capable de ça. Et ça, c'était très rare. Et je pense que pour Monk, d'avoir quelqu'un qui comprenne ça, qui soit aussi dans le bain, à la fois musicalement, culturellement, c'est un petit miracle pour lui. il s'amuse à s'épater de royale indifférence, c'est-à-dire qu'ils font tous les deux semblant l'un avec l'autre d'en avoir rien à foutre, alors que ils savent très bien que c'est très important.
It was like when she came over, they shouted at her car, you know, nigger love and all that stuff. So she went to quite a bit, and we could appreciate what she was going through, and in our own way. We would have fought to the death when we were with her, you know, if we were there and someone insulted her or something, you know, they had to deal with all of us.
Elle les a beaucoup aidés, mais je pense que eux lui ont apporté tout autant, pas simplement par leur musique, mais par le fait de l'accepter parmi eux, dans cette espèce de fraternité.
She wanted to be one of the boys. She wanted to be part of the band.
Elle voulait faire partie des gars, en fait. C'est Phoebe Jacobs qui dit ça.
We had a freedom that didn't exist elsewhere. We said to hell with manners or good taste. It was so exciting, and she wanted to be one of the crowd, one of the boys.
Quand, évidemment, elle rencontre en fait les acteurs de cette musique, elle se rend bien compte que, pour elle, elle est en face d'une véritable aristocratie, parce que ce qu'ils font est tellement raffiné, tellement sophistiqué artistiquement, mais qui sont dans un état de précarité financière et sociale et politique, qui est dramatique. Donc c'est à cet endroit-là, en fait, qu'elle va, je pense, qu'elle trouve sa place, mais sans stratégie.
Alors il y a un passage, je ne sais pas si vous le pensez toujours, parce que c'est vrai que vous l'avez écrit il y a longtemps, dans votre ouvrage, où vous dites que malgré toute cette générosité, Nika n'était pas une sainte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Qu'est-ce qu'une sainte ? Qu'est-ce qu'une sainte ? Eh bien, il y a vraiment bien des niveaux de sainteté. C'est-à-dire que sa sainteté à elle était un dévouement complet, non seulement à Thelonious, mais à tous les musiciens de jazz, et la capacité de se mobiliser pour eux. Et de s'occuper d'eux comme si c'était vraiment son devoir, quoi. Comme si elle était un peu la maman ou voilà la bonne fée de toute cette communauté. Après, quand on dit c'est pas une sainte, on sait à quoi on pense, c'est-à-dire au sexe, à la drogue, à l'alcool, etc. Et ça, franchement, elle y allait. Et c'est normal, parce que c'est un milieu qu'il y allait. Elle, ce qui lui plaisait, c'est d'avoir des musiciens qui jouent dans sa chambre d'hôtel, dans sa baignoire. Et elle entend ces gars qui jouent une musique absolument céleste dans son bain. Et elle trouve ça formidable. Alors, c'est peut-être pas des saintes qui font ça, mais c'est pas Monica.
C'est dans cette suite que Charlie Parker est décédé aussi.
Absolument, Charlie Parker. C'est là que Charlie Parker est mort de rire, absolument. Il est mort en riant, en regardant une émission comique. C'est très bien décrit dans le film de Clint Eastwood, Bird. Oui, voilà, c'est le genre d'accident qui arrive quand on fréquente ces gens-là et qu'on les a chez eux, chez soi. Enfin, quand on les a eux chez soi. Ouais, c'est des accidents qui arrivent. Et ce qui montre quand même que c'était pas une société faite que de joie et de bombance, mais que la mort rôdait pas loin, les accidents, les crimes racistes, les mises arbitraires en prison, on pouvait basculer dans le cauchemar extrêmement vite.
Elle était pas préparée à ça, peut-être pas Panonica. Enfin, ça a dû. Et puis en plus, enfin, pas non plus préparée à tout le scandale dans la presse. Hein.
Bon, alors il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que Panonica, elle a quand même fait la guerre. Elle a vu des cadavres ventre ouvert. Elle a vécu la guerre. C'est une femme qui n'a pas froid aux yeux. Elle a vécu la guerre mondiale. Elle a vécu la guerre contre sa famille. Ce qui est quand même un truc assez fort aussi. Puis la famille Rothschild, on lui dit pas non. C'est une énorme responsabilité. C'est une responsabilité qu'a tué son père. Son père s'est suicidé. Parce que en fait, il était banquier malgré lui. Et donc, c'était une femme avec beaucoup de poigne. Mais en ce qui concerne l'acte de faire face aux embruns, mais il n'y a pas meilleur qu'elle. Elle est taillée pour ça, quoi. Avec son fume-cigarette, son profil de movie star, ses robes de haute couture, sa Bentley pas loin, son chauffeur ou pas, et genre, bah ouais, et alors ?
Elle est magnifique, cette photo.
Oui, avec son fameux fume-cigarette. C'est vrai qu'elle se baladait toujours avec, et elle était dans les rues de New York, même à la fin, quand je l'ai vue, avec son fume-cigarette, avec parfois quelques petits trous à cause des cigarettes, voilà. Mais...
Ah oui.
Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est des photos posées, souvent...
Il y a beaucoup de photos en soirée, hein. Le soir, la nuit.
Oui.
Une femme de la nuit, quand même.
C'est une femme de la nuit. Elle se réveillait vers midi, elle se couchait pas avant 1h du matin, en général. Elle suivait le mouvement des musiciens. Les concerts, les... Voilà.
Parce qu'elle n'était pas forcément comme ça avant. Elle s'est adaptée à ce rythme.
Je pense qu'elle ne pouvait pas être comme ça du temps de mon grand-père. Ça, certainement, parce que ce n'était pas du tout, à mon avis, ses horaires. En fait, je ne suis pas directement sa petite fille. Mon grand-père s'est marié d'abord avec une première femme et qui est décédée en mettant mon père au monde. Et il s'est remarié avec une cousine lointaine qui était Panonica. Et voilà, donc... Et là, il y a toutes sortes de photos. Je vous parlais de ces recherches, on va dire, avec Polaroid sur les effets de lumière, comme ça, de avec du mouvement. Enfin, tout ça, c'est des photocopies que j'ai faites parce que j'aime beaucoup. Je trouve ça très libre.
Mais là, c'est vrai que c'est des expérimentations un peu avec le Polaroid.
Oui, elle était fan de ces appareils et elle en a fait. Enfin, voilà. Donc, c'est des effets de lumière en train de bouger et ça fait des traces comme ça, lumineuses, multicolores. C'est assez. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très abstrait. Hein, c'est pas. Mais sa peinture était abstraite, complètement.
Il y a aussi ce projet, Nadine de Königswarter, ce projet donc de rassembler des photos de musiciens, ainsi que cette question qu'elle leur posait, qu'elle leur demandait leurs trois vœux. Et vous avez tout rassemblé dans un livre.
C'est elle qui avait rassemblé, elle avait construit sa maquette parfaitement. C'était magnifique d'ailleurs parce qu'elle avait fait ça vraiment maison, on va dire, avec tout était collé, bien fait comme ça. Enfin, elle avait une façon très particulière de jouer avec du graphisme. Et donc quand je suis allée à New York, parmi les comme j'y étais souvent, je vivais à ce moment-là dans chez elle, dans sa chambre, puisque elle n'était plus là. Je suis tombée sur une malle avec bourrée de Polaroid, et je repérais qu'il y avait des têtes que je reconnaissais comme John Coltrane, Sonny Rollins ou et par contre beaucoup d'inconnus. Et ce que j'avais repéré, c'est que les Polaroids étaient en train de disparaître. Nombre de Polaroid est en train de blanchir complètement. Donc j'en ai parlé à ma tante Bérite qui vivait là-bas et je lui ai dit c'est dramatique parce que c'est quand même un trésor là qui est en train de s'évanouir. Et je lui ai dit la seule façon de sauvegarder cela, c'est de scanner ces Polaroid avant que toutes ne disparaissent. Moi je voulais surtout pas que ça devienne un livre comme un livre de beaux-arts. Je voulais que ça reste le plus proche possible de sa maquette.
Ce sont donc ces Polaroids que vous avez retrouvés. Et donc là, on peut voir différents jazzman, tous ces jazzman qui faisaient partie de sa vie.
Dont Marie-Lou Williams, sur lequel je tombe, qui est une des pianistes, enfin c'est vrai qu'instrumentiste, parce que souvent c'était des chanteuses, mais dont elle était assez amie. Je crois qu'elles étaient très amies avec Marie-Lou Williams. Ça, c'est... Comment il s'appelle ? Ornette Coleman.
John Coltrane.
Tout se passe à Cat House. On voit Monk avec Coltrane. Monk un peu affalé dans le canapé et Coltrane qui fait ses gammes au saxo derrière. tout ça, c'est Coltrane. Ça, c'est Art Blakey. Et c'était une maison qui a été construite par Joseph von Stenberg pour Marlene Dietrich à l'origine. Et ce qui était extraordinaire aussi, c'est cette vue sur Manhattan qui était à 360 degrés avec des baies vitrées comme ça. mais dans un état pas très, enfin, un mauvais état, la maison, parce que il y avait eu jusqu'à 150 chats qui vivaient dedans, pas toujours entretenus, voilà, donc c'était un peu compliqué.
Et donc ce royaume des chats a été rebaptisé Cat House.
Oui, Cat, ça veut dire les musiciens aussi, voilà, donc c'était à double tranchant.
Un jeu de mots. Et effectivement, à côté de ces photos, il y a donc ces trois vœux à chaque fois. Donc là, on voit elle leur posait la question. Là, on voit les vœux d'Art Blakey qui sont...
Que tu m'aimes, que mon fils Art Junior se tire de ses emmerdes, divorcer et me marier avec toi. Bon, ben ça, ils ne sont pas tous dans ce cas-là, hein, mais... en tout cas, il y a beaucoup de vœux qui sont... très classique, on va dire, et il y en a certains qui sortent complètement de l'ordinaire, comme ceux de Miles Davis qui dit « to be white ». C'est la seule chose qui y répond. On voit des photos de Monk en train de danser à Cat House. Là, il y a Charlie Rose et Sonny Clark déguisés avec les manteaux de Panonica, je pense, et les robes de chambre de Panonica, parce que je vois pas trop ce que ça peut être sinon.
Oui, là, ce grand manteau de fourrure aussi, je crois qu'il y a une photo de Thelonious aussi,
oui,
qui le porte.
Tout à fait, tout à fait. Mmh.
C'est vrai qu'on sent la proximité dans ces photos et l'intimité, comme vous disiez.
Oui, oui, absolument. Et c'est vrai que de partager dans la durée, comme ça, du quotidien avec ces musiciens, c'est-à-dire les concerts, mais toute la nuit, ils restaient dans la maison, je pense, et il y a quelque chose qui s'installe d'une connivence, voilà. Elle était vraiment immergée dans leur vie, je pense.
Personnellement, je trouve que la composition pour Panonica la plus attractive, c'est celle de Monk. mais il y en a eu un paquet, et c'était une très bonne muse, parce que elles sont toutes très belles, ces compositions.
Il y a une citation, la voilà, que je retrouve, juste que je voulais vous dire, parce qu'elle est tellement belle, qu'il y a une citation de Nika.
The music is what moves me. It has something I also hear in the playing of the Hungarian gypsies. Something very sad and beautiful. It's everything that really matters. Everything worth digging. It's a desire for freedom. And in all my life, I've never known any people who warmed me as much by their friendships as the jazz musicians I've come to know.
Ça, pour moi, ça dit tout, en fait. Ça dit comment cette musique... se raccroche à ses souvenirs de musique des gypsies, donc de là en fait de son origine, ses origines, puisque sa mère était de Hongrie. Comment la musique est symbole de liberté, en fait, comment la liberté, ça respire la liberté, et comment effectivement ces musiciens là l'ont réchauffé comme personne dans sa vie.
I only regret one thing in my life, and that's not being able to save Thelonious.
Monk ne joue plus, il est chez la baronne, il joue pas, et je pense que ça devait être un peu ténébreux, quoi. C'est un vrai trou noir à la fin, c'est-à-dire il a un silence qui absorbe tout autour de lui, quoi. Donc c'est pas un invité très agréable à avoir à demeure chez soi, quoi. Et je pense que bon, beaucoup de jazzmen sont morts jeunes. Donc Nika, qui a vécu quand même un peu plus vieille, elle a vu tout ce milieu qui s'éteignait, alors qui mourait de la drogue, qui mourait d'accident, qui mourait à un âge assez jeune pour la raison qu'on connaît pas, qui mourait en prison, donc c'est triste la fin de sa vie a pas dû être très gaie, je pense.
Il souffre de
sérieux problèmes de santé qui ne sont pas nouveaux, mais qui évidemment s'accélèrent et s'aggravent avec les années. Bah, comme en fait n'importe quel problème de santé, on se sent pas très digne quand on est malade. Donc il a tendance effectivement à se murer dans le silence, plutôt même à se coucher dans le silence, plutôt à l'horizontale, et à ne pas bouger du tout. Et donc il y a une forme de... Je pense qu'il y a une forme de grande abnégation aussi de sa part à elle.
I hadn't been away anywhere for 12 years, but then I had to go to England. I'm not a crier. I never cry. I can count the times on one hand when I've cried. I didn't cry when Thelonious died, and I haven't cried since. But on the day that I left here, I started to cry. And when I went to say goodbye to Thelonious, he was really upset. I couldn't stop, you know. I just couldn't stop. And I cried the whole way to England too.
Elle dit à un moment qu'elle a dû partir en voyage, faire un voyage à l'étranger pour des raisons familiales, et qu'elle lui a dit au revoir et qu'elle, en fait, elle était persuadée que quand elle rentrerait, il ne serait plus là, il serait décédé. Elle dit, à ce moment-là, j'ai énormément pleuré en partant. C'était terrible. Elle est rentrée, il était encore là. Puis il est décédé pas très longtemps après. Là, elle a plus pleuré parce qu'elle avait déjà, en fait, elle avait déjà entériné le fait que... Non, leurs dernières années n'ont pas été de la plus grande gaieté. La fête était un peu derrière eux.
And if she were with me now, I think I know what Nikki would do. First, she'd pour us both a shot of whiskey from her teapot, and then she'd raise her finger to her mouth, and she'd whisper, "Shh, just listen to the music, Anna. Just listen."
Si elle était avec moi maintenant, je pense que je sais ce qu'elle ferait. Elle se servirait du whisky avec sa théière, et elle chuchoterait, "Chut, écoute la musique, Anna. Juste écoute."
I would like my ashes to be scattered on the Hudson River in the evening, around midnight. Yes, I said round midnight. I think you all know why.
Ces mots sont ceux de Anna Rothschild, la petite nièce de Panonica. Plusieurs extraits de son film pour la BBC, The Jazz Baroness, ont été diffusés dans ce documentaire. Pour nous raconter son histoire, on entendait Laurent De Wilde, pianiste et écrivain, Stéphane Tamayon, professeur d'histoire-géographie et auteur de bande dessinée, Nadine de Königswarter, artiste peintre et petite fille de Panonica, et Elsa Rook, directrice d'acteur et metteuse en scène du spectacle Panonica. À la prise de son, Pierre Bornard. Mixage, Hervé Dubreuil. Coordination, Anaïs Quien. Attaché de production, Sylvia Fabre. Merci à Jean-Philippe Krief. Panonica de Königswarter, La bonne étoile du jazz. Un documentaire de Lenora Krief, réalisé par Rafik Zénine.
C'était toute une vie. Réécoute, podcast et bonus sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr.